Plus jamais ça. Car la guerre ne résout rien. À la table là, il y a ma petite fille Corinne. Elle ne grandira pas dans une Europe déchirée par les conflits armés entre les peuples.
Je voudrais raconter comment on en est arrivé là.
Tout homme sur la terre a deux faces, le bien et le mal. Blâmer tous et ne comprendre rien. Tel est l'exergue du 9e film de Xavier Giannoli, qui porte pour titre celui du recueil de poèmes de Victor Hugo, Les rayons et les ombres. Il retrace en effet, avec ses côtés les plus sombres et ses bonnes intentions, l'histoire vraie du patron de presse Jean Luchaire et de sa fille Corinne Luchaire, devenue une actrice célèbre, pris dans l'engrenage de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais le film pourrait aussi s'intituler « Illusion perdue », car Xavier Giannoli y traite les grands thèmes balzaciens, la compromission de la presse et des individus, et l'attrait de l'or et du plaisir. Alors qu'elle emmène au parc une petite fille au manteau rouge qui rappelle celle de Steven Spielberg dans la liste de Schindler, Corinne est insultée, frappée, se fait cracher au visage. Elle va alors raconter son histoire en l'enregistrant sur le magnétophone d'une voisine et tenter d'expliquer comment une jeune star de cinéma des années 30 en est arrivée à être ainsi détestée. La vraie Corinne Luchaire a d'ailleurs publié en 1949, juste avant sa mort, une autobiographie intitulée « Ma drôle de vie ». Entre les deux guerres mondiales, au cercle franco-allemand, Jean Luchaire est guidé par de nobles principes. Avec lui, son ami allemand Otto Abetz, amoureux de la culture française, veut, dit-il, préserver la paix coûte que coûte et limiter la casse. La petite fille grandit dans cette, je cite, « illusion rassurante », avec un père qu'elle admire et qu'elle veut impressionner. Si dans « Illusion perdue », Lucien de Rubempré vendait sa plume au plus offrant, Jean Luchaire, lui, aliène son âme pour une illusion de paix d'abord, pour l'argent ensuite. Soutien de Léon Blum, farouchement pacifiste, engagé contre l'antisémitisme, et fils d'un père haut fonctionnaire à la Société des Nations, remarié avec une juive et d'ascendance juive, il entre dans un engrenage fatal. De l'idéalisme à l'aveuglement, la lâcheté, la compromission délibérée, il sera condamné à mort pour collaboration avec l'ennemi et exécuté le 22 février 1946. Mais le mot « collaboration » n'a pas encore, en 1933, le sens péjoratif qu'il aura par la suite. Pour les deux amis, Otto et Jean, la collaboration est alors une solution juste, destinée à éviter la guerre. C'est le mérite du film, d'ailleurs, de faire œuvre pédagogique de clarification des concepts. Il ne parle jamais d'occupation, mais de collaboration loyale et sincère, au sens le plus positif, négocier, discuter, faire une Europe forte avec une Allemagne forte. Mais il ne voit pas que l'Allemagne a été trop humiliée par le dénouement de la Première Guerre mondiale et qu'Hitler n'a que vengeance et guerre en tête. Pendant que Corinne démarre sa carrière d'actrice avec Prison sans barreau de Léonide Mogui, le grand cinéaste juif dont elle devient l'actrice fétiche, Jean Luchaire va devenir l'un des défenseurs les plus fervents de la collaboration. Les rayons et les ombres analysent ce glissement progressif des rayons vers les ombres et montrent comment les bonnes intentions initiales ont conduit les deux amis à épouser le pire au lieu de l'éviter. Car si Jean laisse utiliser ses locaux par des résistants qu'il surprend sans les dénoncer, s'il aide une famille juive à s'enfuir, il se croit quand même obligé d'écrire dans sa fatale lettre à Céline « Je suis devenu entièrement antisémite, je ne suis pas enjuivé ». Et c'est qu'il y va de sa vie. Jacques Fieschi, grand adaptateur de Balzac et scénariste inspiré, évite tout manichéisme. Il se tient habilement sur une fragile frontière entre le souci de vérité historique et celui de pénétrer la complexité des âmes. Quand le discours d'Otto se radicalise avec son ascension au poste d'ambassadeur d'Allemagne, par exemple, il dit « un pays divisé est plus vulnérable, manipulable », et à propos de la rafle du Veldiv, il dit « c'est la police française qui a organisé l'opération ». Ils ont manqué de zèle d'ailleurs. Préparer l'opinion à accepter la violence organisée devient le travail quotidien de Jean. La tuberculose qui le ronge est l'image d'un monde en décomposition, la métaphore de la déchéance morale, la sienne et la déchéance générale. Père et fille ont, dit Corinne, le goût du sang dans la bouche à propos de leur maladie et elle explique leur aveuglement par ce désir de défier la mort. On avait notre guerre à nous contre la douleur, on ne pouvait pas s'occuper des autres. Elle a d'ailleurs une confiance aveugle en son père. Et c'est normal. Et c'est ça qui est si troublant dans cette histoire. C'est que l'amour légitime entre un père et sa fille, semble tout justifier. Mais le discours vibrant et emphatique de l'avocat général Philippe Torton, en quelques plans mémorables, évite le reproche de complaisance qui était d'ailleurs impensable pour un cinéaste comme Xavier Giannulli. Sa caméra, une nouvelle fois, filme de près les visages, les émotions, le malaise ou la maladie. La voix off de Corinne nous fait entrer dans cette histoire d'ombre par la personnalité rayonnante de la jeune femme Nastia Golubeva, fille de Léos Carax, vue auparavant dans Revoir Paris et dans Annette. Elle nous touche et nous emporte avec elle dans cette descente aux enfers.